Bonjour et bienvenue dans l'émission Écologie d'IDFM Radio, Mission Verte. Chaque jeudi de 10h à 10h30, je suis Laurence. Vous pouvez nous suivre sur le 98 de la bande FM ou sur IDFM98.fr. Au programme de ce jeudi 21 novembre, un invité, Franck Lirzin, qui va nous parler d'un très beau livre. Il s'intitule « Quand un arbre raconte le monde », c'est paru aux éditions de l'Aube. C'est l'histoire du plus vieil arbre de la capitale. C'est un robinier, c'est formidable, c'est écrit à la première personne. On va découvrir 400 ans de l'histoire de Paris, mais pas que. Et donc, c'est avec son auteur Franck Lirzin qu'on va aborder ce très beau sujet. Puis, dans une seconde partie de l'émission, comme d'habitude, des conseils et des informations. Merci à Francky pour la technique. On se retrouve juste après ça. À tout de suite.
Elle marche vite dans les ruelles, le visage éclairci. Il n'a pas dit qu'il la trouvait belle, mais elle l'a senti. Elle repart le corps en voyelle, le cœur ébloui. Il n'a pas dit qu'il la trouvait belle, il l'a rendue jolie. Il met ses mains dans ses cheveux, se redresse et regarde. Le monde est pareil qu'avant eux, pareil qu'avant qu'elle embarque. Dans ses mots, dans ses gestes nus, dans son histoire. De cette première entrevue, ils diront plus tard. Il suffit d'un regard, un regard. Ils sont partis mais leurs esprits ne se sont pas quittés. Ils ont accordé leurs envies en quelques instants volés. Et même si ça n'a pas de sens, le manque est là. Tout ça pour un coup de chance, un coup d'éclat. Ils ne pensent plus qu'à ça, qu'à ça.
Bonjour Franck Lirzin.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de votre dernier titre. Il s'appelle « Quand un arbre raconte le monde ». C'est paru aux éditions de l'Aube. Mais avant d'évoquer ce très bel ouvrage, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ?
Alors, je suis ingénieur et je travaille depuis une dizaine d'années sur les enjeux des transformations de la ville. Et donc, j'écris régulièrement des romans ou des essais sur la façon dont on habite la ville.
Quand un arbre raconte le monde, on va découvrir cet arbre, ce personnage qui va parler à la première personne. Et cet arbre, c'est vraiment un être à part. Pouvez-vous nous dire déjà pourquoi avoir choisi cette manière de raconter cette histoire ? Parce que c'est l'arbre, hein, le narrateur.
Alors oui, alors c'est que les arbres, c'est des personnes très importantes dans la ville et qui sont de plus en plus importants. Et souvent, on passe à côté d'eux sans vraiment les voir. Et donc, j'avais envie de leur donner la parole et qu'ils puissent nous raconter comment ils vivent en ville, comment ils nous voient aussi et comment ils peuvent nous aider à mieux vivre en ville.
Alors justement, votre arbre, il n'est pas inconnu pour les Parisiens. Enfin, en tous les cas, c'est l'un des arbres dont on a le plus entendu parler. Et pour cause, c'est le plus vieil arbre de la capitale.
Effectivement, c'est un robinier ou faux acacia, comme certains l'appellent, qui pousse dans le square Viviani, donc qui est dans le 5e arrondissement, en bas du quartier latin, en face de Notre-Dame de Paris, et c'est le plus vieil arbre de Paris qui a été planté en 1600, donc il a un peu plus de 4 siècles aujourd'hui.
Et évidemment, n'importe quel touriste parisien, francilien, s'il se rend sur ce square, va le voir. Hein.
Oui, il est là, bien vivant, vert, fleuri au printemps. Il a même des jeunes pousses qu'on appelle des drageons qui sont en train de pousser à côté et qui pourront un jour prendre sa succession. Donc il a de beaux jours devant lui.
Alors justement, ce robinier, il lui arrivait 400 ans d'histoire, d'aventure, car il n'est pas tout à fait né chez nous. Il n'est pas parisien pure souche, hein. Au contraire, c'est ce qu'on va découvrir. Et notamment grâce à une rencontre fortuite avec une humaine, si je veux dire, une fille de notre époque. On est dans les années 2019.
Alors effectivement, il rencontre une jeune fille, une femme, qui comme beaucoup de jeunes de sa génération se pose des questions sur ce qu'elle veut, comment elle peut faire pour protéger la planète, et il décide d'engager un dialogue avec elle et de lui raconter sa vie. Et donc il parle de sa naissance, parce que l'arbre n'est pas parisien, il est né en Amérique, sur les monts Appalaches. Il a été cueilli par les Indiens et il a été ramené en Europe par les premiers colons britanniques qu'il a transité pendant quelques années à Londres. Et il a fini par arriver entre les mains du botaniste du roi Henri IV qui, le premier, l'a planté sur l'île de la Cité avant de le déménager là où il se trouve actuellement, à côté du quartier latin.
Alors, ce qu'on va découvrir aussi, c'est d'où vient son nom, hein, ce robinier. Il vient d'un grand scientifique, herboriste, féru de botanique, qui a été le protecteur de cet arbre, Jean Robin.
Effectivement, donc il s'appelait Jean Robin, qui était à l'époque la star des botanistes, la star mondiale, qui a été un des premiers à acclimater en fait toutes les espèces qui venaient d'Amérique, mais aussi d'Asie ou d'Afrique, qui a été un précurseur du jardin des plantes et qui était un très très grand connaisseur du monde du vivant, très proche du roi et de la reine. Et donc il s'appelait Jean Robin. Et effectivement, le nom Robinier est un hommage à ce très grand botaniste.
Alors, votre ouvrage, il est découpé en plusieurs grandes parties. Alors, il y a les origines. On va d'ailleurs y découvrir la fin tragique du père, entre guillemets, de ce robinier, hein, qui a été, comme beaucoup d'arbres, a souffert de prédateurs. On le découvre, hein, vous racontez très très bien avec le jeu du narrateur, le jeu de l'arbre. Ensuite, on part dans la naissance, dans l'enfance, dans les tourments, dans l'accident, et à chaque fois, donc on et puis dans la renaissance. Bref, on va suivre les pérégrinations de cet arbre, et on va découvrir qu'il va évidemment croiser les grands de l'histoire de France, et que certains ne l'appréciaient pas à sa juste valeur.
Alors effectivement, c'est donc l'arbre raconte sa vie. Alors ce qui est assez, ça peut paraître des fois extraordinaire, mais tout est véridique. Il a fait effectivement la rencontre de personnages qu'on connaît bien, par exemple Jean-Baptiste Colbert, qui était son voisin, qui habitait une rue voisine et qui était chargé de négocier la vente du terrain où se trouvait l'arbre. Et effectivement, il y a une discussion avec lui sur la place des arbres. Et on sait que Colbert, c'est celui qui a inventé le code forestier et qui est le précurseur dans la protection des forêts, mais Il a préféré les chênes, qui étaient plus solides et plus adaptés pour la construction des bateaux, que les robiniers, qui ont un bois un peu moins noble, et donc qui n'ont pas été retenus pour les forêts françaises.
Alors heureusement pour notre robinier premier, hein, comme il se nomme, il va croiser aussi des grands noms qui vont l'apprécier, notamment des écrivains, des artistes, on va nommer Mérimée, André Breton, entre autres, et d'autres grands noms. Et pour revenir un peu à notre époque, dans ce livre, vous rappelez les relations de l'arbre et de notre société, de l'être humain. C'est vraiment un sujet central, fil rouge de votre ouvrage, afin de rappeler au lecteur, et évidemment, à l'humanité, combien cet arbre, c'est notre avenir, c'est ce qui doit nous tendre à respecter, à protéger.
Oui, effectivement, c'est tout le message du livre, parce que les arbres, pendant très longtemps, on les a considérés comme des objets ou des choses d'agrément, mais quelque chose qu'on ne doit pas respecter, qu'on exploite pour leur bois, pour leur miel, ou qu'on utilise pour leurs fleurs, la beauté qu'ils présentent, mais sans véritable respect. Et donc, depuis une vingtaine d'années, il y a un changement profond dans les mentalités, et il y a une attention très forte qui est portée aux arbres. Et par exemple, sur cet arbre-là, il était un peu laissé à l'abandon, il était couvert par un lierre, il était pas très loin de mourir. Il y a des personnes, des bénévoles, des gens de la mairie de Paris qui ont pris des décisions importantes pour le sauver, pour le protéger. Il a été élu arbre remarquable par une association. Et donc aujourd'hui, il a été remis en valeur et on a même laissé pousser en fait des drageons à côté qui vont un jour lui succéder. Donc on est vraiment sur quelque chose où on donne de l'avenir aux arbres, on les considère. Et ça, c'est un message très important sur cet arbre-là, mais qui vaut aussi, je donne aussi des exemples ailleurs dans le monde, parce que le robinier est la troisième espèce la plus présente dans le monde aujourd'hui, et c'est des descendants de ce robinier-là. Et par exemple, en Chine, c'est grâce à cet arbre-là qu'ils ont pu refleurir, reverdir un endroit qui était désertique, qui était pourtant le berceau historique de la civilisation chinoise, mais qui était devenu totalement stérile à force d'exploitation au cours des siècles.
Oui, c'est ce qu'on découvre dans votre ouvrage. C'est aussi beaucoup de sources bibliographiques. Hein. C'est un ouvrage, comme vous le rappeliez, qui est issu de faits vérifiés et justement d'informations pour aller plus loin. On va découvrir effectivement que la Chine, dont on dit que c'est un des pays les plus pollueurs du monde, fait aussi de son côté du travail pour rendre ce pays plus vert, en tous les cas en replantant ces arbres. C'est aussi une manière d'avoir un peu d'espoir en finissant votre ouvrage.
Oui, parce que là, on est dans une crise climatique grave et on a besoin des arbres pour c'est une solution, parce qu'ils vont stocker le carbone, ils vont rafraîchir les villes, ils vont nous apporter aussi beaucoup de capacité de relation, d'attachement au vivant. Et en même temps, on est avec le changement climatique, ils sont très impactés, ils sont à cause des sécheresses, des maladies. Et donc on a besoin d'eux, et donc c'est aussi un message, un peu une déclaration d'amour aux arbres en leur disant voilà, ils sont importants pour nous, nous sommes importants pour eux, travaillons ensemble à des solutions pour essayer de sortir de cette crise climatique que nous subissons tous les deux.
Et donc, on rappelle le titre de votre ouvrage, Quand un arbre raconte le monde, ça se lit comme un roman, mais aussi c'est très documenté, donc on apprend beaucoup de choses sur la capitale, sur les arbres, et notamment le robinier, le premier de son espèce sur la ville et sur notre territoire, et c'est un petit bijou que proposent les éditions de l'Aube. Franck Lierzin, vous rappelez tout à l'heure que vous étiez aussi l'auteur de documents, d'essais, est-ce que il y en a déjà un qui est sur la table de travail?
Je réfléchis pour la suite, toujours sur les enjeux de la ville. Et c'est vrai que cette fois, je voulais un roman, parce que c'est important aussi de pouvoir faire parler d'eau, de pouvoir travailler sur l'imaginaire, de pouvoir raconter une histoire, parce qu'au fond, c'est une histoire d'amitié entre une jeune femme et un arbre. Mmh. Et c'est ça qui est aussi le plus important à lire et à vivre.
Oui, c'est aussi une manière de couvrir un public plus large peut-être aussi.
Oui, c'est ça, parce que sur les essais parfois peuvent être un peu techniques ou perçus comme tels. Alors un roman, ça permet effectivement de raconter différemment, de donner plusieurs points de vue aussi, de traverser les temps. Donc il y a des, enfin, vous verrez dans le livre, mais il y a des aventures, oui. Bah, il est foudroyé, il oui. est relevé. Il essaie de sauver sa peau pendant la Révolution française.
Oui, parce que
quelques branches. Voilà. Donc il y a tout, c'est très, il a une vie qui est très mouvementée. Il a une personnalité qui est un peu bougon, un peu difficile parfois aussi. Donc il y a aussi toute cette mise en perspective de la vie d'un arbre qui donne un peu du relief.
Voilà, un vrai Parisien, on peut dire.
Un vrai Parisien, peut-être. Effectivement, qu'il est devenu Parisien au fil du temps et qu'il a appris à être un peu ronchon. Oui.
Eh bien, on va le découvrir dans Quand un arbre raconte le monde, un très bon roman de Franck Lierzin par aux éditions de l'Aube. Et j'invite vraiment tous nos amis auditeurs à découvrir ce très beau livre. Merci à vous.
Merci beaucoup.
À l'écoute d'IDFM Radio, Mission Verte. Je suis Laurence. Alors, avec toutes les catastrophes que l'on vient de voir avec ces inondations en France, en Espagne et ailleurs, un petit point sur les eaux de pluie. Transformons cette menace en ressources. C'est ce que nous propose de lire le petit collecteur, ce bulletin d'information qui est distribué aux habitants du syndicat intégré assainissement et rivières de la région d'Enghien-les-Bains. Alors, qu'est-ce que nous dit cette information ? C'est que les eaux de pluie sont une ressource précieuse, hein, surtout en temps de sécheresse, mais peuvent avoir des effets néfastes si elles ne sont pas correctement gérées. C'est particulièrement le cas dans les villes de plus en plus urbanisées. Vous savez, avec ces sols imperméabilisés, l'eau ne peut plus s'infiltrer naturellement et cela provoque des ruissellements rapides, des inondations. Et avec l'augmentation des épisodes pluvieux extrêmes, il devient essentiel d'adopter les bonnes pratiques pour gérer ces eaux à la parcelle. Alors, il y a des méthodes qu'on nous explique. Notamment quatre raisons de gérer les eaux de pluie à la parcelle, prévenir donc les inondations, réduire les impacts sur l'environnement, préserver le cycle de l'eau naturelle ou encore améliorer le cadre de vie. Et les solutions pour une gestion intelligente de l'eau de pluie, eh bien, il y a notamment cinq dispositifs simples à mettre en place, comme l'ANOU. Alors l'ANOU, c'est un large fossé peu profond, végétalisé, qui assure l'infiltration de l'eau à l'air libre. Les eaux pluviales sont collectées par l'intermédiaire de canalisation ou après ruissellement sur le terrain, puis s'évaporent ou s'infiltrent dans le sol. L'ANOU peut être facilement intégré à un projet d'aménagement paysager dans le jardin. Attention, elle est déconseillée sur les sols contenant du gypse. Autre dispositif simple, vous avez le puits d'infiltration. Alors, les eaux pluviales stockées dans le puits vont pouvoir s'infiltrer progressivement dans le sol. Le puitsard est adapté au terrain peu perméable en surface. Mais attention, il faut installer un dispositif de pré-traitement avant le puits pour retenir les déchets, vous savez, comme les boues et autres flottants. Il faut positionner ce puits de stockage à au moins 5 mètres de toute construction et 3 mètres de la végétation pour éviter, vous savez, les dégâts des racines des arbres. Autre dispositif, vous avez les revêtements perméables. Vous savez, ces revêtements qui peuvent se faire lorsque vous réalisez une terrasse, une zone de circulation ou de stationnement. Pour cela, vous mettez des gravillons, un mélange de terre-pierre, des pavés à joints poreux, des bandes enherbées, des dalles engazonnées. Grâce à ces matériaux perméables, vous pouvez conserver des espaces aménagés tout en limitant cette fameuse imperméabilisation. Autre dispositif, vous avez la cuve de rétention ou encore le fameux récupérateur d'eau de pluie qui est relié à la gouttière du toit et qui offre un volume de stockage allant de quelques centaines de litres à plusieurs mètres cubes. L'eau ainsi récupérée pour un usage domestique, évidemment hors consommation alimentaire, comme vous savez la chasse d'eau, les lessivages des sols, du linge, sous réserve d'un traitement adapté ou encore pour arroser le jardin. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à demander ce bulletin d'information, le petit collecteur, ou encore à aller sur le site du petit collecteur qui est imprimé par le syndicat intégré assainissement rivière de la région d'Enghien-les-Bains. C'est le site www.siare95.fr.
On a tous une chanson de Souchon qui nous traîne, un vieux col roulé qui nous gêne, une rentrée, une odeur de trousse. Dans nos souvenirs, on a tous toutes ces choses qui durent et qui tiennent, un vieux poster de Saint-Étienne, des mots qui nous ont démolis, des je préfère qu'on reste amis. Ces pierres sur lesquelles on se glisse et qui font de nous un édifice. On a tous au fond du mental toutes ces choses fondamentales, toutes ces pierres semées dans le passé qui nous poussent et qui nous font pousser. Cachées là au fond du mental, ce sont les choses fondamentales. On a tous une bonne odeur de tarte aux pommes, une chanson super en automne, un vieux couloir qui fout la frousse. Dans nos souvenirs, on a tous une amoureuse en collégienne, des prénoms qui soudain reviennent devant des vieilles photos d'élèves. Ce qui nous a élevés nous élève. Ces pierres sur lesquelles on se hisse et qui font de nous un édifice. On a tous au fond du mental toutes ces choses fondamentales, toutes ces pierres semées dans le passé qui nous poussent et qui nous font pousser. Cachées là au fond du mental, ce sont les choses fondamentales.
Si un jour je me désaccorde, même perdu, déboussolé, je ferai résonner la corde, la note sur laquelle j'ai poussé. Toutes ces pierres sur lesquelles on se hisse et qui font de nous un édifice. On a tous au fond du mental toutes ces choses fondamentales. Toutes ces pierres semées dans le passé qui nous poussent et qui nous font pousser. Cachées là au fond du mental, ce sont les choses fondamentales. On a tous toutes ces choses fondamentales.
Avant de se quitter, je voulais aussi vous rappeler, vous savez, l'impact carbone. Nous n'en avons pas forcément conscience, mais les heures que nous passons sur nos smartphones, ordinateurs, tablettes engendrent de la pollution et un outil permet de l'évaluer. Alors vous savez, selon l'étude ADEME et ARCEP, en 2023, l'empreinte carbone du numérique représentait 3,6% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. En France, les chiffres de 2022 annonçaient 2,5% avec des scénarios tendanciels affichant une croissance de 45% à l'horizon 2030, voire un chiffre triplé pour 2050. Alors, l'empreinte carbone du numérique provient à 79% de la fabrication des équipements, mais il y a 20% qui est la part restante concerne leur utilisation. Alors, pour sensibiliser aux conséquences de l'usage quotidien des appareils connectés, l'ADEME a mis en ligne un simulateur qui convertit nos comportements sur différents supports du type envoi de mail, temps de streaming ou de visioconférence en quantité de CO2 émise. La qualité de l'image et de la transmission, l'ajout de pièces jointes, tout a une incidence et il suffit de jouer avec le curseur pour le constater. Mieux encore, on découvre en détail sur ce site l'impact environnemental de nos achats et de nos agissements. C'est parlant, ça fait réfléchir et si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site, impactco2.fr/outils/usage numérique, impactco2.fr/outils/usage numérique. Et comme chaque jeudi, nous finissons par la citation de Charles Darwin. Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. On va méditer dessus en lisant l'ouvrage « Quand un arbre raconte le monde » de Franck Lirzin qui était avec nous au début d'émission. Merci encore à Francky pour la technique. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain avec une des deux organisatrices du Repère Café qui se tiendra à Enghien-les-Bains samedi 30 novembre, ainsi qu'avec Charlotte Lambert qui va nous expliquer comment accueillir des abeilles. C'est le titre de son ouvrage. Alors à la semaine prochaine et en attendant, je vous souhaite une excellente journée sur les ondes d'IDFM Radio. Au revoir.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Bonjour, c'est Didier Delattre. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous à la découverte de personnalités du Val d'Oise, car j'aime leur richesse, leurs projets, leur engagement. Rendez-vous le jeudi à 18h, rediffusion le dimanche à 10h30 sur IDFM Radio et dans notre rendez-vous compte, évidemment.
Retrouvez la matinale du lundi au vendredi de 7h à 9h30. Toute l'actu locale, la météo, l'horoscope, l'album de la semaine, des cadeaux à gagner et l'invité du jour avec Christophe sur IDFM Radio.
IDFM 98 FM. Bonjour, c'est Jacqueline Voras sur IDFM Radio. Retrouvez-moi tous les mardis et vendredis matins de 9h30 à 11h dans l'économie en direct. Une émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise, aux artisans, aux associations, aux élus, aux instituts de formation. Bref, à tous ces passionnés qui participent à la vie économique ou politique du territoire. Alors, pour en savoir plus, n'oubliez pas, rendez-vous le mardi et vendredi de 9h30 à 11h dans l'économie en direct sur IDFM Radio.